Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag.
Bonjour, mon nom est Christian Bazatois, je suis directeur marketing ici au Time Market Montréal et j'ai rejoint le groupe depuis avril 2022.
Excellent. Le Time Out, pour que le monde ne connaisse pas ça, c'est vraiment une affaire internationale. C'est un affaire internationale qui a commencé au Portugal, que je me rappelle dans ce coin-là. Pour comprendre un peu le Time Out, à part le fait que vous avez lancé ça pendant la pandémie, que c'était comme tout le monde, c'est quoi le Time Out Market? C'est quoi votre core de votre business ici?
Ben, Time Out Market, comme vous le dites, a ouvert durant la pandémie. On l'a tous vécu, on a eu beaucoup de changements à travers des partenaires qu'on avait eu à l'ouverture et ceux d'aujourd'hui. Ceci étant dit, une bonne partie sont quand même restés à travers ces moments-là. Et aujourd'hui, toutes nos cuisines sont occupées, toutes nos concessions. Et la différence, en fait, de Time Out Market comparé aux autres algourmandes dans le même style, c'est que la curation est vraiment faite par notre éditrice. C'est vraiment une curation qui est faite par l'éditrice par rapport au fait qu'on veut rassembler ce qu'il y a de mieux, les meilleurs chefs de la ville sous un même toit, mais avec une certaine expertise pour s'assurer que chaque cuisine, chaque chef ait une expertise et qu'on n'a pas deux chefs qui ont la même expertise pour vraiment s'assurer qu'on a une offre globale qui répond aux besoins de toute notre clientèle.
C'est quoi le fait d'être ici? Qu'est-ce qui est différent, disons, d'aller dans un centre alimentaire en bas, manger comme ça? Qu'est-ce qui vous amène le plus à part la curation, tout ça? Qu'est-ce que vous voulez plus comme avantage ici?
Bon, c'est une très bonne question parce qu'il y a toujours un manque de compréhension ou une incertitude par rapport à la différence du concept entre un food court et un food hall. Donc nous, étant une halle gourmande, oui, il y a la curation au niveau de l'offre de la nourriture, donc des restaurants avec qui nous travaillons, mais il y a aussi surtout une offre au niveau de l'alcool. On va avoir vraiment une offre qui s'ajoute à la nourriture, donc avec un bar à bière, un bar à vin, un bar à cocktail. On a également une offre sans alcool, donc avec les bars à mocktail, bars à smoothie. Mais tout ça aussi, ce qui va faire la grande différence, c'est vraiment l'expérience du client dans le marché. On peut naviguer, on peut manger où on veut, on peut s'asseoir où on veut, on peut prendre un verre ou ne pas prendre un verre. On a une programmation également culturelle avec DJ, des dégustations, on a des pop-up au marché, on a plein d'événements tout à travers l'année pour notre calendrier de programmation.
Oui, parce que l'affaire, c'est ça l'importance, comme tu dis, de différencier les deux, parce que c'est vrai que vous avez quand même quelque chose d'intéressant, une programmation très culturelle, très bouffe, tout ça. Et le monde qui vient ici, qu'est-ce qu'il recherche ici? Parce qu'il y a beaucoup de monde en tête, quand j'ai parlé avant de venir ici, il me parlait, est-ce que c'est très pour le touriste ou c'est vraiment pour les Montréalais en soi?
Très bonne question, tu vois. Autrement, on voit qu'il y a une certaine saisonnalité. Là. Comme on le sait, nos mois d'hiver sont plus longs que nos mois de soleil. Alors, dans tous les mois froids, on a vraiment les locaux, les Montréalais et le tourisme local qui vient vraiment au marché pour vivre cette expérience-là. Et souvent, on pense que les clients viennent pour un restaurant en particulier, mais on a réalisé à travers plusieurs sondages que les clients viennent vraiment pour le Time Out en premier, pour cette expérience, découvrir ce concept qui, au Québec, ne date pas de très longtemps, contrairement aux autres pays à travers le monde, donc le concept de halle gourmande, et qui apprécie le fait de pouvoir manger différentes cuisines ça, en étant dans le même groupe, dans un même endroit, profiter de la programmation culturelle. Donc, ça, c'est vraiment tous les mois d'hiver. Alors, l'été, on voit un petit changement au niveau du comportement du client. On sait tous très bien qu'on veut aller sur une terrasse ou dans un parc l'été. Et là, on voit vraiment un changement dans les tendances et dans l'occupation avec une clientèle locale qui réduit et une clientèle touristique qui vient reprendre le dessus. Pour ce qui est de la clientèle touristique, ils viennent parce qu'ils connaissent le concept à l'international. Il y a aussi cette valeur où ils savent qu'ils vont bien manger, il va avoir une bonne... Tu sais, c'est un lieu propre, il va avoir des toilettes propres, drôle à dire, mais important pour les touristes. Et surtout, une bonne connexion Wi-Fi. Donc, il y a vraiment toute cette expérience-là que les clients recherchent touristique, ce qui nous permet de vraiment être occupés à l'année longue.
C'est quoi la différence entre les autres Time Out Market à travers le monde et c'est ici? Est-ce que c'est là où vous êtes, à part le côté local, bien sûr, quand on vient ici, on voit toute la bière locale, les drinks locales, la bouffe locale. Est-ce quoi la différence de vous autres, le concept montréalais, disons, Portugal, UK, tout ça?
Je dirais que les concepts sont relativement assez similaires, mais chaque Time Out a comme pour mission de mettre de l'avant la culture locale. Donc c'est sûr qu'au niveau de la programmation, de la nourriture, de notre programme de bière et tout, tout reste vraiment sur le local. Mais overall, l'idée, c'est que si on voyage dans tous les autres time-outs du monde, qu'on puisse comprendre vraiment quelle est la culture, de vraiment aller prendre, s'imprégner de la culture locale à travers l'offre de nourriture, une programmation culturelle et une offre de boissons.
Et comment vous faites pour choisir quelle sorte de bouffe vous avez ici en premier lieu? Parce que, comme je dis, la beauté de Taïwan Market, quand je viens ici, c'est que tu es dans des centrales, tu as plein de bouffes différentes, tout ça. Mais comment on fait pour être sûr d'avoir une offre différente comme ça? Bien sûr, c'est toi qui décides comme ça. Mais comment vous faites pour avoir un nouveau quelqu'un, un nouveau restaurant, tout ça? Comment ça fonctionne?
C'est vraiment un processus qui se fait en collaboration avec notre éditrice. Donc l'éditrice en chef, qui est Laura Osborne pour le Canada, va vraiment être toujours à l'affût. Elle a un dossier avec différents restaurants qui seraient potentiels pour une cuisine qui serait disponible à tout moment. Et sachant qu'on a toujours besoin d'avoir une offre qui est diversifiée. Donc, on ne va vraiment pas avoir deux fournisseurs ou deux restaurants qui ont la même offre. Donc, ça permet de toujours être à l'affût de qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est bon, quels sont les chefs, quelle histoire on veut raconter. Parce que tout est vraiment... il faut que tout fasse du sens, autant au niveau de la nourriture, du chef qu'on va faire arriver ici pour raconter aussi cette histoire et faire vivre un moment autant aux Montréalais qu'aux touristes qui vont découvrir.
Est-ce qu'il existe une architecture de quand on marche ici pour aller manger et boire ça, ou c'est vraiment tu laisses ta personne voyager à lui tout seul, ou quand tu rentres ici, tu rentres à l'entrée, il y a un café, il y a de la pâtisserie, tout ça, est-ce qu'il y a une façon de marcher pour bien trouver, ou vous laissez ça à la personne tout seul?
C'est un très bon point qu'en fait, je pourrais prendre en compte pour les mois à venir. Mais non, c'est ça, on laisse vraiment les gens voyager à travers les différentes cuisines pour qu'ils puissent en profiter. On va quand même avoir une section des chefs signature. Et la section des chefs signature, ça c'est la section des cuisines et restaurants qui n'ont pas de restaurant au même nom. Je prends un exemple de America's Barbecue, chef Paul Toussaint. On a le Chantienne, qui est l'ancien chef exécutif du premier ministre. On va avoir le Mesmis, qui jusqu'au début de ce mois n'avait pas de cuisine de restaurant à Montréal. Donc c'est vraiment des comptoirs signature de chef. Et pour le reste, ça serait vraiment des restaurants qui ont déjà pignon sur rue ou une autre adresse à l'extérieur. Par contre, les chefs signature ont d'autres restaurants à Montréal, mais pas nécessairement ceux au nom de leur cuisine signature ici.
Est-ce qu'ils utilisent cette place ici, Taïwan Market, comme lieu de disons, celui qui n'a pas de restaurant, est-ce qu'ils utilisent ici comme une espèce de façon de tester leur restauration ici? Est-ce que tu peux tester ça? Parce que je sais qu'avant, Taïwan, je pense que c'était en Lisbonne, à Portugal, où que, tu sais, c'est un peu comme des ghost kitchen un peu, c'est comme tu viens ici, tu passes 6 mois, tu testes ton marché, puis après ça, ça fonctionne, tu t'en vas ailleurs. Est-ce que c'est un peu le même concept ici?
Non, pas vraiment, vu que les gens ne peuvent pas demander à venir chez nous et que c'est une curation faite par notre éditrice. C'est vraiment nous qui choisissons qui vient et il reste vraiment, pour eux, c'est aussi une opportunité de visibilité parce qu'il y a toute une campagne marketing qui est faite derrière chaque restaurant, derrière le concept, souvent qui est très bénéfique aux restaurateurs qui n'ont pas nécessairement cette structure-là de visibilité médiatique et suivi. Donc ça, pour eux, c'est vraiment beaucoup très avantageux de venir ici parce que ça leur permet de se faire connaître quand même à une masse dans un temps assez réduit.
Puis la structure, bien sûr, d'avoir quelqu'un qui ramasse les plats, comme ça, c'est... sauve beaucoup d'argent quand même avec ça.
Exact. C'est sûr que oui, au niveau de la restauration, nous, on prend vraiment en charge tout ce qui est l'expérience client. Le restaurateur ou le chef a vraiment sa tâche première, c'est de vraiment livrer la meilleure qualité possible. Donc pour eux, c'est une gestion en moins de ça. Puis nous, on essaie de vraiment plus ancrer le concept de Al Gourmand en rajoutant justement le fait qu'on débarrasse ses assiettes, mais on ne fait pas le service aux tables. Donc oui, définitivement, c'est une nouvelle formule qui est de plus en plus populaire, je pense, au Québec.
Oui, mais on le voit beaucoup aux Pays-Bas, puis en Angleterre.
Exact, à travers le monde. Donc oui, les chefs aiment ça parce qu'ils peuvent vraiment se concentrer sur ce qu'ils savent faire de bien. Et nous, on s'occupe du reste.
La job plate.
Exact.
Excellent. Une des affaires que j'aime de Taïwan Market, puis nous autres, on a partagé un petit peu ce que vous faites, c'est le côté, la section bière que vous avez. Bien sûr, vous avez une bar à bière qui est vraiment beau, vraiment clean au bout, un peu comme le même qu'on sait ici, Noir Gris, tout ça. mais que vous faites en plus, l'important, c'est que vous faites des mois de... Vous invitez un brasseur comme Montréjus le mois passé, vous avez invité, je pense, la Gabiale il n'y a pas longtemps, ouais. Et maintenant, il y a Borel qui s'en vient, tout ça. Puis c'est comme un concept intéressant d'amener une nouvelle clientèle qui n'existe pas vraiment au centre-ville, parce que centre-ville, c'est pas connu pour un dépanneur de bière ou des affaires comme ça. Les bars, c'est très cher. Tu peux nous parler un petit peu de votre section bière à bière, puis ton concept d'amener à chaque mois des nouveaux brasseries?
Tout à fait. Alors nous, au bar à bière, on a à peu près, je le regarde là, on a 12 lignes de bière en fût, sachant que le Québec a vraiment une très belle offre exceptionnelle, je pourrais même dire, au niveau de la bière, des microbrasseries. On a voulu trouver une façon de pouvoir faire découvrir tous les produits du Québec à travers un programme de bière. Donc, on a mis en place un programme de bière sur l'année qui permet d'avoir une microbrasserie québécoise locale qui est mise en vedette chaque mois. Okay. Donc, chaque mois, on va avoir une dégustation le premier mercredi du mois où on reçoit le brasseur, un ambassadeur de marque pour venir vraiment faire déguster les produits, faire connaître la bière, leurs produits et rencontrer aussi, bien sûr, leur public ou des gens qui ne les connaissaient pas. Et puis, ces bières sont vraiment toujours mises en avant tout le mois. On a généralement à peu près 3 produits qui sont mis en avant. Donc, c'est 3 canettes. On essaie d'aller avec des choix qu'on sait qui intéressent beaucoup les clients, qui sont un peu tendance. Des bières comme des IPA, on va avoir une bière surette, vraiment des produits classiques, mais aussi un peu funky, qui vont aller rejoindre un petit peu une clientèle qui est amateur de bières de spécialité. Et donc voilà, chaque mois, on va vraiment changer. Ça permet justement autant à notre public de découvrir de nouvelles bières, d'étoffer notre offre de bière au niveau du bar à bière et en parallèle de faire découvrir et de donner une vitrine aux microbrasseries via notre plateforme et notre marché.
C'est quoi la réaction du public pendant chaque mois, le changement de bière, comment ça va?
C'est assez exceptionnel parce que les gens ne s'attendent pas à ce que les bières soient gratuites, s'attendent pas à rencontrer vraiment les brasseurs, à prendre. Puis après, je pense que ça fait vraiment découvrir. Puis une des belles choses aussi, c'est qu'on a beaucoup de plus en plus de microbrasseries disponibles dans les dépanneurs, ce qui rend un petit peu la sélection difficile pour le consommateur de ne plus savoir okay, mais qu'est-ce que je prends? Je prends la surette à framboise, à la lime, à celle de tel brasseur. Et en les essayant ici, ça leur permet de justement découvrir un nouveau produit et ça améliore et ça étoffe leur expérience au niveau de l'achat et la consommation des bières. Quand ils arrivent dans un endroit, il y en a une sélection à l'infini.
Est-ce que vous avez le droit de vendre des canettes ici à emporter?
Alors là, ça c'est une très bonne question qu'il faudrait que je valide, mais on vend de la bière pour consommation sur place, on n'a pas un espace boutique pour le moment, du moins.
Ok, vous n'avez pas comme l'entente avec les SAQ en bas ou des trucs comme ça?
Non, ça c'est vraiment consommation sur place, à l'exception bien sûr des bières sans alcool.
Excellent. Mais non, vous avez aussi le mocktail qui est là-bas, que je viens de voir, vraiment beau. Vous avez des mocktails de l'Australie, tout ça.
Ouais.
Et vous avez un bar à cocktail en plus. Vous parlez un petit peu des deux stations là.
Oui, bien sûr. Alors au niveau du bar à cocktail, on essaie de plus en plus de travailler aussi avec des produits locaux.
Vous n'avez pas mon espresso martini, mais...
Ah, ben ça, on va le faire rentrer, la demande spéciale.
Yes.
On a les Fluffs, par exemple, qui est un nouveau produit qui arrive sur le marché avec Club Local.
Okay.
Club Local a une distillerie avec laquelle on travaille déjà avec plusieurs produits au niveau du bar à cocktail qui vont apporter de nouveaux produits sans alcool, donc on va les appeler les faux alcools du moins, et utilisés dans notre bar à mocktail. Notre bar à mocktail a une sélection de 10 à 8 cocktails mocktails qui sont exceptionnels.
J'ai vu, vous avez des belles bouteilles, c'est impressionnant.
Les bouteilles sont impressionnantes, les cocktails sont faits par des mixologues de Montréal, c'est assez exceptionnel. On collabore avec justement les distilleries qui nous fournissent ces produits-là. On a un partenaire aussi de choix, Alambica, qui derrière vraiment toute la création de mocktails, je précise, et la sélection des produits. Donc c'est vraiment un produit qu'on voit de plus en plus parce que bon, oui, on veut faire découvrir tous les produits, mais on veut aussi avoir une belle offre de mocktails pour les gens qui ne prennent pas d'alcool.
C'est quoi la réaction du monde? Parce que tu sais, je sais, le mocktail, c'est une expansion, comme on le sait. Les volumes ne sont pas encore là, mais c'est quoi la réaction du monde? Est-ce que le monde, il sera moins guilty de boire un drink pendant la journée comme ça? C'est quoi est-ce que c'est en soirée, en milieu? Comment ça fonctionne?
Alors, le bar à mocktail, il roule toute la journée.
Okay.
Il roule toute la journée. Et je pense que l'avantage qu'on a, contrairement probablement à d'autres bars, c'est que notre offre est séparée. notre offre motel n'est pas inclus avec notre offre cocktail.
Donc, okay. Gens... il y a une séparation des deux.
Donc les gens qui vont au bar à motel savent déjà ce qu'ils veulent. On a bien sûr un display qui permet aux gens de visualiser un petit peu quel genre de produit ils ont. Et que c'est vraiment une toute autre clientèle et le volume il est là.
Le monde embarque là-dedans.
Embarque, ils veulent. C'est bien clair, c'est bien défini. Donc, il y a vraiment une clientèle pour ce produit-là qui ne veulent juste pas boire des mélanges de jus. Voilà.
Est-ce que c'est un peu comme le bar à bière, où vous faites des événements mensuels, vous invitez du monde, des mixologues à faire des nouveaux drinks à chaque mois ou quelque chose?
Alors non, au niveau du motel, on fait pas d'événements avec les mixologues. Par contre, c'est une carte qui change une fois par année.
OK.
Une fois par année, on va vraiment la modifier pour créer de nouveaux produits, mais on va quand même toujours garder les produits phares et populaires disponibles, pas sur la carte, mais disponibles pour les clients réguliers qui reviennent. Pour faire un parallèle avec le bar à cocktail, alors là, c'est un concept un peu plus différent. Oui, bien évidemment, on fait affaire avec les micro-distilleries, et les mixologues locaux. Donc là, on a toujours un concept qui va essayer de mettre de l'avant autant les distilleries que les mixologues et les bars locaux. Prendre un exemple, la dernière carte qu'on a en ce moment, elle a été faite en collaboration avec une sélection faisait partie des meilleurs bars de Montréal, à qui on a donné un défi de travailler avec un produit d'une micro-distillerie et de nous créer un cocktail.
Okay.
Pour le moment, on a vraiment ces bars-là et mixologues qui ont fait cette carte-là. Et pour la prochaine carte, on est en train de développer un concept qui va plus aller sur une découverte des meilleurs bars de Montréal par quartier.
Okay.
Sachant qu'on ne peut pas montrer tous les bars, et sachant qu'il y en a beaucoup qui sont excellents, qui même pas tous excellents en fait, on va vraiment essayer de faire une sélection et de ne pas travailler avec les mêmes mixologues et bars qu'on avait sur d'autres cartes pour vraiment de plus en plus se faire découvrir. Parce que l'idée est que oui, les gens, il faut qu'ils dégustent des bons produits au Time Out, mais aussi que ça leur permet d'un point de départ pour aller visiter les restaurants ou les bars avec qui on a fait affaire, et peut-être même encore mieux les distilleries si les touristes voyagent à travers la province ou le pays pour justement se procurer ces pays et les ramener chez eux. Donc c'est vraiment un point de départ pour une découverte pour les touristes et les locaux aussi.
Côté vin, je sais que est-ce que le côté vignoble, est-ce que vous avez une buvette? Je vois que vous avez une belle sélection là-bas. Est-ce que c'est une buvette aussi que vous développez aussi
Alors, on a les 6 bars. Parmi nos offres de bars, on a un bar à vin. Au niveau des bars, on a une offre très réduite au niveau des produits québécois qui, pour le moment, je pense qu'on sent que le volume...
Mais ça se développe tranquillement.
Exact, ça se développe tranquillement, mais le bar va vraiment très bien. On va toujours avoir une carte qui va changer également une fois par année avec des nouveaux produits, des nouveaux partenaires. Et on va très bientôt, fin juillet, si tout va bien, ouvrir un nouveau bar à vin du côté de la restauration. Et avec ce nouveau bar à vin, ce qu'on va proposer, on va avoir une carte différente, beaucoup plus réduite, qui va vraiment être très axée sur mettre de l'avant des régions, des producteurs, certains cépages. Une carte qui va peut-être de temps en temps aller en accord avec certaines offres de nourriture qu'on va avoir, mettre de l'avant un pays. Donc ça, c'est des belles choses à venir qu'on va probablement communiquer assez.
Ça, il y a le côté collaboration où vous faites déjà avec Time Out Marketing, Time Out Market. Le magazine Time Out, c'était un magazine de voyage au début. Vous gardez l'esprit de collaboration, de voyager, aller chez nous, mais quand même aller ailleurs quand même.
Exact, c'est tout à fait. Parce que l'idée, c'est vraiment, c'est un point de départ. Parce que, comme tu dis, avant Time Out, proposer les meilleures adresses dans toutes les destinations
Londres,
au monde.
Comme ça, Madrid, tout ça.
Exact. Donc, ce qui permettait aux gens de se dire, OK, qu'est-ce que je visite, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je bois. Et quand l'idée à Lisbonne est arrivée, de se dire, mais what if? On prenait toutes ces bonnes adresses, on les mettait sous un même toit. D'où est partie l'idée du marché. Mais sache, gardant quand même en tête le business model au départ, de se dire, on veut quand même être une référence et envoyer les gens, après leur visite, visiter tous ces lieux-là qu'on a mis chez nous et parler de d'autres aussi qui sont exceptionnels, mais qui ne peuvent pas malheureusement être au marché parce que c'est une question de limitation d'espace.
Toi, c'est sûr, t'es dans le marché de l'alimentation, restauration, tout ça. Comment ça va, la restauration, tu sais? Est-ce qu'on est au retour, presque du retour de la pandémie, ou c'est encore un peu struggle dans les deux sens encore?
Alors, je prends quand même précision de dire que ça, je parle vraiment en tant que Time Out Market, pas pour l'industrie, parce que je pense qu'on vit quand même deux réalités différentes. Je fais partie de plusieurs tables de restaurateurs sur lesquels on discute des fois des challenges, des défis qu'on a à travers l'année au niveau de l'occupation, la fidélité des clients, la hausse des prix, l'expérience client, la saisonnalité et tout. On est quand même, je pense, nous, très chanceux au Time Out parce qu'on va rejoindre un plus large public qui est capable aussi d'avoir des goûts variés dans un seul endroit. Donc, c'est vraiment un avantage qu'on peut avoir à d'autres restaurants. On a aussi la localisation qui est très importante. On a un métro, on a en dessous, on a un stationnement. On est dans le centre d'achat le plus occupé avec le plus fort achalandage. On est au centre-ville, on a les tours de bureaux à côté. Donc, on est quand même très occupé, autant à l'heure du midi. En après-midi, on va avoir une légère baisse au niveau d'occupation. Et le soir, ça repart avec autant les touristes, les locaux que les travailleurs autour. Puis, je pense aussi que toute la programmation culturelle ajoute un peu un plus à l'expérience. Donc, ça va très bien. Ça va très bien. On voit vraiment une évolution, une hausse constante. On continue à travailler pour justement maintenir cette hausse, continuer vraiment de travailler là-dessus. Même les mois difficiles, je dirais que les mois d'hiver sont nos mois les plus forts.
C'est pour tout le monde aussi là-dessus.
C'est ça. C'est vraiment les mois les plus forts en occupation parce que les parents, je prends un exemple, la fin de semaine, on a un programme de famille où on a toujours une animation pour les enfants, soit un clown, maquillage, on a la sculpture, on a toujours une activation pour les familles. On a l'arcade. Donc, il y a vraiment une clientèle. Les parents qui veulent que leurs enfants courent, ce qui est une chose qui ne sont un peu moins probable dans un restaurant typique. Fait qu'ils sont vraiment à l'aise. C'est comme un parc, c'est un terrain de jeu pour eux. Donc, c'est vraiment un avantage qu'on va avoir. La fin de semaine, on va également avoir des bands les dimanches qui permettent justement de vivre une autre expérience pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Fait que voilà, donc c'est un peu tout ce mis ensemble qui fait vraiment que ça marche très bien. Et puis que, bon, voilà, on souhaite aussi aux autres restaurateurs, bien sûr, de...
Si vous jonglez avec plein de différents segments, tout ça, c'est quand même impressionnant quand même.
Ouais.
C'est ça la question que tout le monde disait, est-ce qu'un jour vous revenez au print ou le print c'est fini?
Alors,
je me rappelle qu'on avait au début, quand vous avez commencé, vous aviez le magazine à travers Montréal.
Je parle en tant que Time Out Market qui n'est pas Time Out Media. Donc, c'est sûr que le magazine, pour le moment, je pense qu'on se concentre sur le volet numérique. Est-ce que le magazine reviendra? Le temps va le dire.
L'annuel, quelque chose. Exactement. Il y a beaucoup de monde qui aimait le magazine. Je me rappelle quand il est arrivé, c'est sur la crise des médias, tout ça. Je me rappelle quand le magazine est arrivé la première fois à Montréal. On avait Montréal, Laval, un peu à Québec, tout ça. Donc, on était bien contents d'avoir c'est un beau média, tu sais, en sorte.
Tout à fait. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et écoutez, le temps le dira. Je ne fais pas de promesses, je n'annonce rien.
Media Market, please do.
Restez à l'affût.
So, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres dans Palon avec tout ça?
Par le bar avec qui s'en vient. Pour le moment, toutes nos cuisines sont pleines. Au niveau de la programmation, ce mois-ci, on fait des partenariats avec beaucoup de festivals encore là pour vraiment créer un certain pont. On a des artistes de cirque qui vont être dans le marché le 13 et 14 en lien avec le festival Muriel Complètement Cirque. On va avoir une série de trois cocktails exclusivement créés pour le festival. Ils seront offerts du 7 au 30 juillet. À la fin du mois, on a le Drag Brunch qui est très populaire, qui va un petit peu lancer les festivités de la Pride qui, à Montréal, contrairement au reste dans l'Amérique du Nord, la Pride Month se fait vraiment durant le mois d'août. On va avoir les événements cabaret croquis qui s'en viennent avec le Back to School. On a toujours les microbrasseries qui vont être mises de l'avant. Donc, il y a beaucoup de belles choses qui se créent, qui viennent, qui vont. Puis, c'est vrai que je n'ai pas mentionné, mais au niveau du bar laitier aussi, on travaille avec des produits locaux, comme les givrés. Donc, voilà. C'est toujours un peu dans le même esprit. Je pense que maintenant,
est-ce que vous avez travaillé avec les micro-laiteries dans Palon, des trucs comme ça?
Pas
le gros volume eux autres, mais
ça. Parce que le problème avec les producteurs de crème glacée, on va les appeler, n'ont pas tous des permis. Alors je pense pour le transport et tout, donc c'est très régularisé. Donc il faudrait vraiment, il n'y a que quelques-uns qui l'ont. Fait que pour le moment, on travaille avec ceux qui l'ont, mais on reste très ouvert, bien sûr, à travailler avec d'autres fournisseurs.
Si vous êtes occupé.
Pas mal.
Excellent, ben écoute, si quelqu'un veut vous contacter, si quelqu'un veut vous envoyer un courrier pour avoir des idées, comment on fait pour vous contacter?
Alors, on écrit à info à Montréal, à Timer Market Montréal, qui est disponible sur notre site internet. On est aussi disponible, on répond très régulièrement en moins de 24 heures sur nos réseaux sociaux, si on veut nous écrire sur Instagram ou Facebook. Sinon, par téléphone également, dès qu'on appelle au marché, il y a toujours quelqu'un qui va prendre la ligne.
Excellent, écoute, merci beaucoup. Hein.
Merci à toi.